Sport sur MDM, c'est donc officiel depuis vendredi soir. Le bureau de la Fédération Française de Basket a donc validé la participation de Basketland pour la toute première fois de son histoire à l'Euroleague. Le club landais qui aura ainsi bénéficié du désistement pour des raisons financières liées au Covid de l'ATE Montpellier, donc pour intégrer le Gotha du basket européen. La première rosange, évidemment, la présidente Marie-Laure Lafargue, pour qui cette participation à la plus prestigieuse des compétitions interclubs est un formidable coup de projecteur et un potentiel aimant à nouveaux partenaires. Alors certes, sur le plan sportif, on imagine que cela sera forcément très compliqué pour les filles de Julie Barène face à l'élite de la crème, du gratin, du ballon orange. Pas question toutefois de se consumer dans les joutes européennes. La priorité pour Basketland restera le championnat. On écoute à ce sujet Marie-Laure Lafargue.
Après, tout le reste, ça sera du bonheur, de l'apprentissage, mais on sait aussi que le fait de jouer la Coupe d'Europe le mercredi, c'est la meilleure façon de préparer le championnat. Et l'enjeu de ces matchs-là, ça sera d'acquérir de l'expérience, de la compétitivité à très haut niveau pour être effectivement capable, pour être très positif le week-end, d'assumer ce statut en championnat, y compris contre des grosses équipes de championnat, contre qui depuis 2-3 ans, c'était peut-être le petit plafond de verre qu'on n'arrivait pas à franchir. Là, en se frottant à ce niveau-là tous les mercredis, on peut espérer aussi casser ce plafond de verre en championnat le samedi.
Justement, courir sur plusieurs fronts, sur plusieurs tableaux, que vous avez déjà pensé peut-être à renforcer l'équipe, faire puiser dans le réservoir aussi pour les jeunes, on imagine le tremplin fabuleux.
De toute manière, cette année, on avait déjà sur le papier une équipe très compétitive. Hein. On part sur 9 joueuses pro de très haut niveau. On a élargi le vivier des jeunes joueuses qui ont toutes accepté de bien intégrer ce projet-là. Donc on repart sur le même effectif de 6 jeunes joueuses, dont cette jeune joueuse de l'INSEP qui va nous rejoindre aussi à la rentrée. Donc Julie et Shona vont pouvoir compter sur un effectif à l'entraînement d'une quinzaine de joueuses en permanence et d'une quinzaine de joueuses activées au besoin 2 fois par semaine, puisque les jeunes ont aussi opté pour des parcours de formation scolaire à côté qui soient complètement adaptés à cette exigence-là. Donc on a une totale confiance dans ces joueuses-là. Le saut, il est grand sur l'intensité de ce qui va nous être proposé en face, mais sur la capacité à enchaîner des matchs, à jouer 2 fois par semaine, on sait déjà le faire. Hein. Cette année, on a joué quand même 7 matchs à domicile. Enfin, le parcours jusqu'en quart de finale nous a donné plus ou moins à jouer le même nombre de matchs. Après, il faudra être capable de s'adapter autour sur des process d'environnement médical, de préparation physique, mais on a déjà commencé à travailler à ça dès cette semaine avec notre staff médical et kiné, qui sera beaucoup plus disponible aussi pour accompagner ce que sera plutôt l'enjeu de la récupération, de la digestion de voyages plus longs. Mais ça, c'est un travail auquel on est prêt. Les filles, de toute manière, sont hyper motivées et on s'adaptera. De toute manière, je l'ai dit, je crois, déjà cette semaine, hein, le sujet, c'est pas... Cette Euroleague n'est pas une fin en soi, c'est une étape de plus et il est hors de question de griller le club sur cet objectif-là. Donc on appréhendra chaque étape avec beaucoup de sérénité et de mesure, aussi bien sur l'aspect sportif mais que de l'économie aussi. Donc pas question de griller le club sur le plan économique pour se faire juste plaisir. Une étape après l'autre et la première étape dans l'Euroleague, c'est découvrir et apprendre.
Et apprendre sur le parquet avec la meilleure guide qui soit en la matière, la record woman du nombre de sélections chez les Bleus, Céline Dumaire, qui ne pouvait rêver plus beau cadeau pour sa 21e et dernière saison chez les pros.
C'était pendant le confinement, l'Euroleague a sorti toute une série de stats sur l'histoire de l'Euroleague et Céline est la meilleure passeuse de l'histoire de l'Euroleague, donc elle a décidé d'enfoncer le clou en profitant d'une année de plus pour se rajouter quelques passes à son compteur. Elle est évidemment extrêmement enthousiaste. Je crois qu'elle ne pensait pas que ça arriverait avant la fin de sa carrière. Elle est évidemment très enthousiaste à l'idée de se refrotter à ce niveau-là, de se faire plaisir dans ce tour de piste. Elle est aussi, et ça c'est le cas de toutes ces joueuses, notamment de ces joueuses qui ont déjà joué ça. Je pense à Valou qui nous rejoint aussi. À des joueuses qui connaissent déjà ça, elles sont surtout heureuses pour le club et heureuses d'être engagées une fois de plus pour rendre au club ce qu'elles y reçoivent. Et donc il y a beaucoup d'enthousiasme, un peu d'égoïsme et beaucoup de solidarité et de volonté de bien avancer ensemble sur ce sujet-là, c'est chouette.
Alors pour le club justement, vous aviez évoqué, j'avais lu, qu'avec le confinement, la saison arrêtée, c'était un peu tout le fruit d'un travail de 5 ans, voilà, il fallait repartir, pas de zéro, mais... accélérateur de particules pour le club.
Ah bah, c'est un gros coup de boost parce qu'effectivement ce confinement on est passé par plein d'étapes comme tout le monde, c'est pas spécifique au basket. Je crois que quand on bosse dans nos entreprises de tous les jours, tout d'un coup se retrouver à l'arrêt complet, enfin, c'est complètement surréaliste. Je ne sais pas le regard qu'on aura sur cette période-là dans 10 ans. J'espère qu'on sera encore là dans 10 ans pour prendre du recul sur cet événement-là. Mais oui, évidemment, on s'est fait peur. On n'est toujours pas dans une certitude absolue sur l'avenir, on ne va pas se mentir. Mais c'est vrai que cette nouvelle-là, elle nous met un gros coup de boost et elle nous reprojette vers l'avant. Elle nous redonne des projets surtout parce qu'on a passé quand même peut-être un peu plus que les autres du temps dans l'incertitude complète du lendemain. Là, ça se réactive depuis 3 semaines. Cette nouvelle vient accélérer complètement la projection vers l'avant. Il reste encore des incertitudes, mais c'est sûr que c'est un formidable coup de boost pour se remobiliser, repartir de l'avant. Peut-être que les 5 ans de retour en arrière qu'on craignait il y a un mois et demi, 2 mois, se limiteront aux dommages collatéraux d'un temps de passage, même si on sait que les 18 prochains mois seront compliqués pour tout le monde, et nous y compris.
Quand on voit un ogre du championnat de France comme l'Ath Montpellier, qui finalement aura eu des problèmes de riches, alors que Basketland, par une gestion saine, est là et va continuer à avancer.
Mais je crois que Montpellier n'est pas coupable d'une mauvaise gestion. Je crois que simplement, chaque contexte est différent. On a des modèles économiques assez différents. Ils comptent assez peu sur le public, par exemple, dans leur modèle économique. Nous, on est vraiment très, très spécifique là-dessus. J'en ai beaucoup discuté, d'ailleurs, avec le président de Montpellier. Son choix n'est pas facile, hein, parce qu'il a une équipe très compétitive. Il a un club qui est sain, qui est habitué au haut niveau. Il est prudent et il préserve l'avenir, parce qu'il y a un trop grand niveau d'incertitude dans le contexte local, avec en plus une concurrence locale à Montpellier qui rend les choses encore plus incertaines. Hein. Quand on sait qu'à Montpellier, il y a, je crois, 6 clubs de sport collectif au plus haut niveau, le rugby, le foot, le handball, le basket. Voilà, tous les contextes sont différents. On a beau être dans le même championnat, on joue chacun avec nos armes et avec nos contraintes. Donc, loin de moi, l'idée de les disqualifier, je dirais, dans leur choix pour nous donner plus de crédit. C'est vraiment chaque contexte qui fait les choses différemment et qui fait que les décisions sont différentes. Mais en tout cas, nous, on a pris cette option-là. Et puis dans notre dynamique, c'était peut-être aussi de la même manière difficile de refuser ça à un moment où on était à 2 ans de cet objectif d'y aller. Donc voilà, tous les contextes et les positionnements de ces projets dans l'histoire de chaque club sont différents. Et il faut, je crois, faire preuve de beaucoup d'humilité et surtout ne pas disqualifier les décisions qui ont été prises à Montpellier, parce qu'elles sont aussi compliquées que celles que l'on a prises, nous, d'y aller.
À titre individuel, voilà, avec 2 ans d'avance...
Ouais, alors j'ai pas trop l'habitude de faire du perso là-dessus. Quand même, on s'est assis 5 minutes avec Pierre d'Artiguelong la semaine dernière, avec qui on ferraille depuis 12 ans très activement. On a mesuré, et ce n'est pas que notre œuvre à nous deux non plus, mais on est quand même ensemble dans cette aventure depuis 12 ans. Et on a quand même mesuré là dans les minutes qui ont suivi la proposition de candidature, le chemin parcouru avec Pierre, les sacrifices aussi qui ont été faits par beaucoup de monde. Et puis là, tout se mélange, hein, le rétroviseur, le pare-brise pour regarder vers devant. Voilà, il y a de l'émotion, il y a aussi le sentiment d'un devoir bien accompli. Et puis la certitude, et ça c'est un sentiment plus collectif pour le club et l'environnement du club, que le travail paye. Et ça c'est voilà, une petite satisfaction, même si je l'ai dit tout à l'heure. Là, le chemin ne s'arrête pas, au contraire, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre devant nous. Mais voilà, le sentiment un peu du devoir accompli, que la confiance qui nous a été donnée aussi par tout l'environnement, hein, le public, les institutionnels qui ont cru dans ce projet, je pense au conseil départemental, mais je pense aussi aux élus de Saint-Sevé à l'époque qui, un peu envers et contre tout, ont soutenu le sujet. Et je ne parle même pas des partenaires qui nous suivent et qui ne nous lâchent pas, surtout en ce moment. Voilà, tout ça, c'est un vrai... Voilà, c'est le cadeau que nous fait le travail. Enfin, c'est pas le cadeau, c'est la récompense, ouais, du travail accompli pour nous, mais aussi pour tout le monde. Donc un peu d'autosatisfaction, mais aussi le sentiment que voilà, tout le monde y trouvera son compte et sa récompense.
Et des perspectives à venir. C'est génial d'avoir autant de perspectives. Bah, c'est sans fin.
Là, voilà, c'est on est reparti. Voilà, on recommence. C'est, je sais pas, on est des On est dans des espèces de cycles, là, le cycle Aeromont Cube, le cycle Saint-Sevé, le cycle LFB, le cycle Eurocup, le cycle Mont-de-Marsan, ou peut-être pas, voilà. On est tous les 4-5 ans sur des cycles nouveaux. On va considérer qu'après 5 ans d'installation ici, à Mont-de-Marsan, plusieurs astres s'alignent, l'équipement s'améliore, on a un superbe parquet depuis 15 jours, on a une salle qui commence à vraiment, dans tous ces aspects, hein, de remplissage, d'animation, de structure même. Vraiment, tout est fait là maintenant pour qu'on puisse basculer dans le cycle d'après. Le club s'est structuré, donc let's go. Étape d'après, Euroleague 2020, et on l'espère un peu plus encore les années suivantes.
Et les filles donc de Julie Barène et de Marie-Laure Lafargue qui devront toutefois passer par un tour préliminaire, manifestement les 23 et 30 septembre, pour gagner donc le droit d'affronter les meilleures équipes du continent. Elles devraient connaître, hein, leurs adversaires autour du 17 ou 18 août prochain.